Naître et savoir sur Marmite FM. Ce que vous voudriez savoir avant d'accoucher et de devenir parent.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Naître et savoir. Je suis Fanta et je suis ravie de vous retrouver pour cette 13e émission. Nous nous retrouvons tous les mois sur Marmite FM. L'idée est de vous informer sur la grossesse, l'accouchement, le développement de l'enfant et plus généralement sur les thématiques liées à la parentalité. Chaque mois, vous entendez des témoignages de femmes, d'hommes ainsi que de professionnels de la santé, de la naissance, de l'enfance et de l'adolescence en lien avec l'un de ces sujets, afin que vous soyez informés pour faire des choix libres et éclairés. Peau à peau, allaitement long et à la demande, cododo ou encore portage, voici autant d'éléments qui font partie de la pratique du maternage proximal. Comme son nom l'indique, le maternage proximal met en avant la notion de proximité entre le parent, souvent la maman, et son bébé. À la différence du maternage distal ou distant, hérité des années 50, qui prône la séparation du bébé et de la mère. Mais avant d'aller plus loin, nous allons préciser ce qu'on entend par le maternage. On peut définir le maternage comme l'ensemble des pratiques et des soins qui ont pour but de s'occuper d'un enfant comme le ferait une mère en ayant une grande proximité avec son bébé. Donc le maternage proximal consiste pour une maman à être totalement à l'écoute des besoins fondamentaux de son bébé en lui offrant une proximité constante via le pot à pot, l'allaitement, le portage et le cododo. Concernant le cododo, il est important de rappeler quelques règles de sécurité. Alors il faut préférer un lit pas trop haut et éventuellement mettre les coussins au sol au cas où. Éviter les oreillers, éviter de couvrir le bébé avec la couette et préférer le mettre dans une turbulette ou une gigoteuse. Et surtout, en cas de cododo, ne pas consommer de somnifères, d'alcool ou de drogue. Et plus généralement, les mamans qui allaitent ont une conscience plus éveillée de la présence du bébé dans le lit. Le maternage proximal est la traduction de l'expression « attachment parenting » qui nous vient des États-Unis et qui a été créée par le pédiatre William Sears. Il se base également sur la théorie de l'attachement fondée par John Bowlby, un psychiatre et un psychanalyste anglais, pour qui l'attachement est un des besoins primaires du jeune enfant, comme manger ou dormir. Et ce n'est que lorsque ses besoins de proximité sont satisfaits qu'il peut s'éloigner de la figure qui le sécurise pour explorer le monde. Depuis les années 2000, cette pratique est de plus en plus plébiscitée par les jeunes parents, mais cet engouement ne doit pas nous faire oublier qu'elle est aussi très décriée. Il lui est reproché notamment d'être excessive, contraignant et de rendre l'enfant dépendant. Dans ce contexte, nous vous proposons d'entendre des mamans qui ont mis en place un maternage proximal et pour finir, d'écouter l'avis d'une spécialiste. Tout d'abord, nous allons écouter les témoignages de mamans qui vont vous parler de leur expérience et de ce que ça leur a apporté, et vous entendrez le point de vue de Claude Didier-Jean Jouveau, auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet. Mais pour le moment, écoutons Pauline, Cécile et Marine, trois mamans qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience.
Bonjour Pauline. Bonjour Santa. Vous êtes maman de deux enfants, âgés de 3 ans et demi et 19 mois. Merci de répondre à nos questions. Pour vous, qu'est-ce que le maternage proximal ?
Le maternage proximal, pour moi, c'est une combinaison de choses et surtout un état d'esprit qui est de se rapprocher, d'essayer de répondre mieux possible aux besoins de son enfant. Ça va être d'abord au niveau de l'alimentation. Dans le maternage proximal, on va parler d'allaitement, ça permet à l'enfant, on sait que les maternelles est ce qui est vraiment l'alimentation parfaite et faite pour le nourrisson. Et ensuite, l'enfant qui grandit est aussi extrêmement important. Donc, ça va être, l'allaitement permet de répondre à la demande, à plusieurs besoins de son enfant qui sont pour le nourrir, pour aussi le réconforter, le consoler, le rassurer. Quand il est malade. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on découle pour moi, c'est un peu un des éléments les plus forts et les plus importants qui amènent énormément le reste, qui vont être notamment le portage, qui vont permettre d'être toujours en contact avec son enfant et de s'en rapprocher, de l'avoir en contact avec soi, de pouvoir mieux anticiper ses besoins, les voir, les décrypter, pouvoir le mettre au sein aussi très facilement. On va aussi parler cododo, Donc, d'être dans le lit avec son enfant en sécurité, bien sûr. Pareil pour la nuit également, être capable de le rassurer, de répondre à ses besoins à tout moment, tout en se préservant aussi en tant que parent du point de vue du sommeil.
D'accord. Et voilà. Comment vous est venue l'idée de choisir cette approche parentale ?
Je dirais que c'est vraiment un cheminement pour mon couple, pour ma famille. C'est venu progressivement. Je pense que avant de tomber enceinte, j'étais à peu près sûre de vouloir allaiter, mais c'est pas complètement arrêté non plus. Je savais pas que je voulais allaiter aussi longtemps. Et ensuite, c'est venu petit à petit. Je dirais vraiment c'est qu'on se retrouve avec un petit être dont on est responsable et je crois que comme tout parent, en fait, on a envie de lui donner le meilleur de ce qu'on a. Et c'est venu très progressivement de comment je peux répondre le mieux, comment je peux être là pour lui. Et voilà.
D'accord.
Et du coup, c'est vraiment un cheminement. Ça n'a pas été. J'avais pas décidé dans ma tête que j'avais avant d'avoir d'enfants. Je pensais que j'allais être 6 mois et puis qu'au bout de 6 mois, ce serait terminé. Et puis j'allais être encore mon petit qui a 3 ans et demi de façon épisodique. Mais voilà. Et voilà. C'est vraiment venu. Je me suis mis à dormir avec mes enfants, mais parce que ça me permettait de les rassurer pendant la nuit, de moi protéger mon sommeil, etc. Donc vraiment, c'est venu pas à pas, je dirais.
Et donc, comme vous le disiez au début, votre compagnon était tout à fait OK avec ce choix ?
En tout cas, il n'a jamais été fermé du tout à ce qu'on se pose des questions, qu'on envisage les choix, qu'on discute ensemble. Je pense qu'il y a eu des moments où voilà, on s'est plus ou moins remis en question, mais comme sur d'autres aspects de notre parentalité, notamment sur la question du sommeil, je pense que ça... du sommeil, de partager son lit, etc. Et puis, lui aussi, il a fait son chemin à travers des lectures et puis avoir nos enfants aussi. Mm-hmm. Je pense que ça... Mais il a toujours... il n'a jamais été fermé du tout à l'idée, toujours prêt à discuter de tout ça, même quand on n'était pas nécessairement d'accord au départ.
Donc, de la discussion pour avancer.
Voilà, exactement.
D'accord. Et donc, par rapport aux difficultés que vous auriez pu rencontrer, vous parliez notamment du sommeil, c'est ça, qui est un réel problème pour beaucoup de parents. Donc, comment vous avez solutionné ça ?
Le fait de dormir avec eux, en fait, pour les avoir juste à côté et pour, si possible... pouvoir les nourrir dans un demi-sommeil, en fait, et pour pouvoir profiter le plus possible de la nuit, tant que c'est possible. Après, il y a toujours des nuits difficiles, parce qu'il y a les petites maladies d'enfants, les dents, tout ça, mais je pense qu'en fait, c'est tous les parents, et que moi, j'ai la chance d'avoir l'allaitement pour les consoler et pour les rassurer. Et je pense que, voilà. Donc, mais en dormant avec eux. Après, je pense que comme tout parent d'enfants en bas âge, on est un peu fatigué, mais c'est normal. C'est une étape de la vie. Je vois vraiment comme ça, comme une étape de la vie.
Comme une étape de la vie. Et du coup, comment a réagi votre entourage à votre choix ?
Alors, pour mon premier enfant, que ce soit au niveau de l'allaitement, du cododo, du portable, de tout ça. Je pense que pour le premier enfant, les gens étaient un peu notamment sur l'allaitement, hein, plein de conseils, soi-disant bons, de d'espacer les tétés, de le laisser pleurer, de tout ça. Enfin, oui, on n'a pas parlé de ça aussi, bien évidemment. Le matin, je pense pour moi aussi, c'est de répondre très rapidement à son enfant, donc pas les laisser pleurer. Et je pense que les gens, comprenaient pas. Mais après, moi, j'étais assez forte dans mes convictions pour pas trop me laisser ébranler, sauf peut-être par des gens très proches comme ma mère, ma meilleure amie. Et en fait, l'une comme l'autre, ça avait tellement, avoir mon fils comment il était et comment tout ça, comment il se sentait et comment il était épanoui et pas du tout. Et qu'il était tout à fait autonome et indépendant, même s'il était encore allaité, même si je ne le laisse pas pleurer, etc. Je pense que ça, les gens très proches ont vu et maintenant, c'est même, pour ma fille, ça n'a même pas été un sujet finalement. Parce que je me souviens de ma mère avec mon aîné à un mois me disant mais il faut que tu le berçant, en disant non, mais il faut qu'il tête moins. Et pour ma deuxième, m'avoir dit mais de toute façon, maintenant j'ai aucune leçon à donner là-dessus. Enfin, tu mènes ta barque, tu la marques très bien et voilà. Donc je dirais que j'ai été, forcément, on a quelques réactions un peu de gens qui ne comprennent pas bien, mais moi je suis assez intimement convaincue que c'est ce qu'il faut, ce qui est mieux pour mes enfants et pour moi, que du coup je me laisse assez peu déstabiliser. Peut-être ce qui peut être plus déstabilisant, c'est l'entourage très proche, qui maintenant est tout à fait, entre guillemets, acquis à la cause.
En voyant le bien-être de vos enfants.
Exactement. Mmh.
Donc, pour terminer, quels conseils ou astuces donneriez-vous à des jeunes parents qui voudraient aussi adopter ce choix parental ?
Je donnerais un conseil, une astuce qui s'adapte à pour n'importe quel parent, qui est de faire attention à soi, de se ménager, de prendre du temps pour soi quand on en a besoin, de se dire que tout l'éducation et l'épanouissement et l'accompagnement de ces petits êtres qui sont merveilleux ne reposent pas sur nos seules épaules et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des gens si on a besoin et à se ménager soi, du temps pour soi, mais juste parfois aller. Je me souviens d'une copine qui avait un petit garçon à peu près du âge de mon aîné, qui sortait quand son mari rentrait le soir, elle sortait marcher un quart d'heure. Et juste un quart d'heure, quoi. Mais pour, elle était en congé mat, elle était avec son petit loup toute la journée et elle avait besoin le soir de ce petit temps. Et je pense que, voilà, vraiment, on a des journées, des nuits souvent éprouvantes, etc. Donc, de ne pas s'oublier. Parce qu'en fait, je me rends compte, même à posteriori, très souvent, que des réactions vives, des réactions que j'aurais pas voulu avoir, etc., elles sont très souvent liées à la fatigue ou au moins à la fatigue intellectuelle j'ai besoin d'un petit temps là. Voilà, parce qu'on s'occupe bien des autres que quand on s'occupe bien de soi-même.
Eh bien, ça va être le mot de la fin, plein de sagesse. Merci beaucoup, Pauline, de votre témoignage.
Merci, Fanta.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, Cécile.
Bonjour, Fanta.
Vous êtes maman de 3 enfants âgés de 7, 10 et 12 ans et demi. Merci de répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Pour vous, qu'est-ce que le maternage proximal ?
Alors, c'est avant tout la volonté pour les parents de répondre aux besoins de ces enfants, et en particulier du nouveau-né, sans remettre à plus tard, donc c'est-à-dire le plus rapidement possible. Bon, évidemment, il y a parfois des contraintes, mais malgré tout, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte le besoin de l'enfant le plus rapidement possible. Donc, que ce soit pour son confort, son alimentation, sa demande d'attention. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois.
D'accord. Et comment vous êtes venue à choisir cette approche parentale ?
Un peu instinctivement, je dirais. Presque par hasard, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'enfants autour de moi quand je suis devenue maman la première fois. Mais j'avais toujours eu beaucoup de petits autour de moi quand j'étais jeune fille. Et ça me semblait tellement naturel, en fait, de répondre aux besoins d'un tout petit le plus rapidement possible. Et aussi, et là je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'instinct, c'est que tout simplement je ne supportais pas les pleurs de mes enfants. Ça provoquait en moi quelque chose d'insupportable auquel il fallait que je réponde. Mes enfants pouvaient éventuellement continuer à pleurer dans mes bras, ça me posait pas trop de soucis, mais les laisser pleurer seuls, ça, c'était pas possible, quoi.
Oui, donc vous alliez contre l'idée répandue de laisser pleurer le bébé, et comme ça, ça lui fait la voix, comme disaient les anciens, c'est ça ?
Exactement, donc c'est pourtant effectivement quelque chose qui est vraiment très répandu et auquel probablement... des choses que j'avais entendues moi-même ou même pu voir, mais quand je suis devenue mère moi-même, de toute façon, physiquement, je ne pouvais pas faire ça. Voilà.
Est-ce que votre compagnon était d'accord avec votre choix ?
Alors, il était pas en désaccord. Après, je pense que lui, pour le coup, comme beaucoup de papas, enfin beaucoup d'hommes qui deviennent papa la première fois, il n'était pas du tout informé de quoi que ce soit à ce sujet. Il s'était jamais intéressé au tout petit avant de devenir papa lui-même. Mmh. Après, il n'était pas contre et il m'a pas du tout empêché de faire ça. Lui-même, je pense que ça lui convenait, mais il a eu peut-être plus tendance à se laisser influencer par le discours ambiant de « faut laisser pleurer, vous êtes esclave de votre enfant, ça va pas le tuer de pleurer 3 minutes ». Et donc, il y a eu des fois, pour notre premier enfant uniquement, des moments où éventuellement, il me disait « si t'es si fatigué que ça, c'est bon, laisse tomber un peu, c'est pas la peine d'en faire autant ». Mais ça a été vraiment que dans des périodes, on va dire, critiques, où on était extrêmement fatigué. Mais au quotidien, ça a jamais, ça lui a jamais posé question. Et il m'a jamais empêché d'être dans cette démarche et de l'appliquer lui-même.
D'accord. Et à comment, a réagi votre entourage ?
Alors, plutôt bien, je dirais, globalement. Même si éventuellement, ça les interpellait. Parce qu'effectivement, même si ma sœur, elle avait déjà eu ses 4 enfants à la naissance de mon premier, elle n'avait pas été dans le maternage proximal comme moi. Mais malgré tout, mes parents ont bien accepté. Enfin, je crois que j'ai bien vendu le truc aussi. Je me suis beaucoup informée, j'ai beaucoup lu, notamment Filiosa, enfin ce genre de bouquins. Et donc du coup, mon argumentation tenant la route, je n'ai pas vraiment rencontré de soucis auprès de mon entourage avec ça. Mmh. Peut-être davantage avec ma belle-maman, qui n'avait pas allaité ses enfants, donc qui ne comprenait pas du tout mon attachement à ce mode d'alimentation, et qui effectivement cherchait à tout prix à faire comme elle, avec mon premier, à faire comme elle avait fait avec les siens, et ce qui était très très différent de ce que moi j'envisageais. Mais bon, elle s'est résignée au bout d'un moment.
D'accord.
C'est-à-dire que voilà, régulièrement elle me disait tu vas l'allaiter encore combien de temps? Et puis au bout d'un moment, voyant que ça n'aurait pas d'impact sur mes décisions, elle a fini par arrêter. Mais il n'y avait pas non plus une pression folle. Je ne me suis pas sentie du tout en danger dans mon mode de maternage.
D'accord. Du coup, quel conseil ou astuce donneriez-vous à des jeunes parents qui voudraient adopter ce mode éducatif ?
Bah, vraiment de suivre leur instinct.
Mmh.
Je pense que c'est vraiment dicté par la nature, hein. Le maternage proximal, pour moi, c'est vraiment ça.
Mmh.
On lit souvent que en fait, le pleur d'un nourrisson est fait pour être insupportable, pour que sa mère réagisse.
Oui.
Et ben, je pense que c'est ça. C'est que le pleur d'un nourrisson, il exprime quelque chose qui dit il n'est pas autonome, donc il a besoin d'autres personnes pour répondre à ses besoins. Et ben, ses parents sont programmés pour répondre à ses besoins. C'est peut-être un peu jusqu'au boutiste, ce que je dis. Mais moi, je pense que quand on le sent dans ses tripes, il ne faut pas dévier, quoi. On sait d'instinct ce qui est bon pour nos enfants et ce qui est bon pour nous en tant que parents. Et donc, il suffit d'aller au bout de sa démarche sans se laisser perturber par ce que les autres peuvent en penser. Surtout ceux qui sont ou pas parents ou qui ont été parents il y a 30 ou 40 ans. Et là, vraiment, je pense que, chacun son chemin, quoi.
Chacun son chemin, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cécile, de votre témoignage.
Je vous en prie.
Bonjour, Marine.
Bonjour, Fanta.
Vous êtes maman de 4 enfants, âgés de 2 ans à 11 ans. Merci de répondre à nos questions. Pour vous, qu'est-ce que le maternage proximal ?
Alors, le maternage proximal, c'est cette relation développée avec mon enfant dans un contact très proche et intense. C'est ma façon de répondre à ses besoins ou à ses appels. Dès que mon enfant en fait la demande, je réponds à ses besoins très rapidement pour lui donner la sécurité dont il a besoin pour grandir. Donc voilà, c'est une réponse immédiate aux appels de mes bébés. En fait, j'ai donc les 4 enfants et j'ai, depuis l'aîné, eu ce discours en tête, il ne faut pas laisser pleurer les bébés. Et du coup, dès que mon bébé pleure, je vais voir ce qu'il a et je réponds à sa demande.
Mmh. Et comment vous êtes venue à choisir cette approche parentale ?
Ça a été assez naturel. Ben, je vous ai dit, en fait, la préparation, j'ai fait une préparation à la grossesse, pendant la grossesse de mon aîné avec une sage-femme. C'était des cours en piscine.
Mmh.
Et cette sage-femme avait ce discours-là de ne pas laisser pleurer les bébés. Et moi-même, j'ai une formation d'infirmière puéricultrice et je travaillais à l'hôpital. Et c'était pour moi très difficile de voir les enfants à l'hôpital pleurer. Et ça me semblait évident, dès que j'en entendais un pleurer, d'aller essayer de comprendre pourquoi il pleurait. Parce que pour moi, un enfant qui pleure, c'est qu'il exprime un besoin et qu'il y a une source de stress auquel le parent est le plus à même de répondre. Et du coup, pour moi, c'était évident de répondre dans l'immédiateté aux pleurs de mes enfants et de ne pas, et peut-être même d'anticiper les pleurs.
Mmh.
Et en fait, ça a évolué. Mon aîné, j'étais vraiment dans la découverte de ce maternage-là. Il a 11 ans, donc c'était les choses ont beaucoup évolué dans le sens du maternage proximal, je trouve, mais il y a encore 11 ans à la maternité, on me disait l'allaitement, c'est toutes les 3 heures, vous ne gardez pas votre bébé au sein, il ne faut pas qu'il confonde le sein avec la tétine, surtout pas de cododo. Donc j'avais ce discours très présent et j'ai ressenti un vrai tiraillement entre justement mon besoin de répondre aux pleurs de mon bébé et du coup de le laisser plus au sein que ce qu'on me disait de faire.
Mmh.
Et du coup, ça correspondait pas vraiment à la réalité. Le discours du personnel médical et de mon entourage à l'époque ne correspondait pas vraiment à la réalité que j'imaginais ou que je à laquelle j'étais confrontée avec mon bébé. Du coup, j'essayais de concilier un peu mes propres ressentis de maman avec le discours de l'époque. Et puis, au fur et à mesure, mon expérience de maman a évolué. Je me suis fait confiance. J'ai lu des livres. Je me suis renseignée. Et ma deuxième, je ne pouvais pas faire autrement que de dormir avec elle. Elle demandait énormément à téter. Du coup, je la laissais téter autant qu'elle en avait besoin.
Mmh.
Et voilà. Et du coup, le maternage proximal a évolué avec mes enfants et la connaissance que j'avais de mes enfants.
D'accord. Et est-ce que, dès le départ, votre compagnon était d'accord avec ce choix ?
Oui, au début, lui, il a toujours soutenu mon choix d'allaitement. De ne pas laisser pleurer les bébés, c'était une évidence pour lui. Donc, on a tous les deux porté notre aîné énormément. Quand moi, j'étais occupée, c'était lui qui prenait le relais, il le mettait en écharpe. Et donc, il était complètement dans cette dynamique-là. Après, il avait pour le premier cette date, passé 6 mois, t'arrêteras l'allaitement.
Mmh.
Alors, j'ai repris mon travail assez rapide, vers 4 mois et demi, mais j'ai réussi à tirer mon lait au travail et à continuer à allaiter mon fils aîné jusqu'à 9 mois et demi.
Mmh.
Ce qui me semblait déjà super à l'époque, au vu de ce qu'il y avait dans mon entourage, des autres mamans dans mon entourage. Et du coup, après la deuxième, il m'avait dit, bon, allez, t'arrêtes d'allaiter à 1 an. Finalement, les mois passaient, les semaines passaient, et il voyait le bénéfice dans la relation avec ma fille. Et du coup, ma deuxième, je l'ai allaitée jusqu'à 15 mois. Et c'est pareil, lui, il était toujours papa porteur, moi je l'ai énormément porté. Au niveau du cododo, il disait rien parce que je mettais ce qu'il fallait en place dans le lit pour pas que ça le perturbe lui dans ses nuits. Et finalement, il se rendait bien compte que bah, quand c'est moi qui me réveillais la nuit pour allaiter nos enfants, finalement, lui dormait aussi bien et que c'était beaucoup plus facile comme ça. Mmh. Et donc, il a toujours soutenu cette façon de faire et il était même acteur du maternage proximal. C'était un paternage proximal.
On peut dire ça comme ça, effectivement.
C'est ça.
D'accord, donc j'entends bien que vous aviez eu le soutien de votre compagnon. Et votre entourage, comment a-t-il réagi?
Mon entourage... bah, j'ai eu les traditionnelles questions. Ah, t'allaites encore, mais pourquoi tu le portes autant? Elle peut marcher, oui, il peut marcher. Mais en fait, je ne m'occupais pas tellement de ces réponses-là, où je répondais vraiment sur le ton de l'humour. Ou... En fait, j'étais convaincue de mes choix, et du coup, quand on est convaincu de ses choix, je pense que le message qu'on fait passer est clair. Et finalement, il y a eu quelques petites remarques, mais finalement, les réponses sont justifiées, sont derrière. Après, l'entourage voit que l'enfant est apaisé, il va vers les autres, il est serein. Donc, quand le développement de l'enfant et ben il est tout à fait je vais pas dire normal, mais si, quand il n'y a pas de problème, et ben voilà, l'entourage il se pose plus de questions et chacun, en tout cas voilà, pour mon entourage, ils me laissaient tranquille quand ils avaient compris que c'était mon choix et que j'en portais la responsabilité. Et ben voilà, j'ai pas eu trop de remarques.
D'accord. Et du coup, vous diriez que la mise en place du maternage proximal a été facile? Vous avez rencontré des difficultés?
Non, ça n'a pas été. Enfin, finalement, c'est avec mon expérience de maman et la confiance que j'ai pu acquérir dans mon rôle de maman que j'ai pu me laisser aller sereinement au maternage proximal. Mmh. Parce qu'en fait, effectivement, quand je repense à mon aîné, j'avais quand même toujours en tête ce discours des sages-femmes, notamment du corps médical et puis de l'entourage, ou de la société, en fait, le discours sociétal qui veut laisser les enfants à distance, etc. Et du coup, il fallait quand même en permanence je sois tiraillée et il fallait que je me fasse confiance et que je sois certaine que ce que je faisais, c'était le bon chemin, sans m'occuper du finalement la majorité autour de moi qui ne faisait pas la même chose. Et en fait, voilà, moi, à force de voir que mes enfants étaient bien, que c'était ce qui me convenait dans la relation avec mes bébés, que j'ai pris confiance en moi et que j'ai pu m'affirmer et en fait développer au maximum ce maternage proximal. Mmh. Je dirais là, intense avec ma petite dernière qui a 2 ans et demi, elle dort toujours avec nous dans le lit, je l'allaite encore la nuit. Quand elle en a besoin, elle en a moins besoin, mais je l'allaite toujours la nuit, je la porte encore énormément. Et voilà, en fait, ma fille, mes 2 filles d'avant, je les ai portées un peu moins longtemps, je les ai allaitées un peu moins longtemps. Voilà, à chaque fois, je m'autorise d'aller plus loin dans cette façon de materner. Et du coup, je pense que quand on est jeune parents, on a du mal à se faire confiance, ça peut être compliqué parce que vraiment le discours de la société ne va pas encore en majorité dans ce sens-là, même s'il y a énormément de travail et il y a un discours qui change, c'est pas encore le discours de la majorité.
D'accord. Et enfin, quel conseil ou astuce donneriez-vous à des jeunes parents qui voudraient adopter ce mode éducatif?
De vraiment se faire confiance et que ce sont eux les acteurs de leur maternage et personne d'autre n'est capable de savoir mieux qu'eux ce dont leur enfant a besoin et ce dont eux ont besoin. Et chaque personne de l'entourage va être capable de donner son petit conseil, mais c'est vraiment le parent qui sait ce qu'il y a de mieux pour lui et son enfant. Et vraiment, il faut se faire confiance. Alors, s'entourer des bonnes personnes dès la sortie de la maternité, moi je dirais aller voir des consultantes en lactation, aller voir pas forcément des pédiatres, mais plutôt des professionnels de la santé qui sont vraiment en faveur de ce maternage proximal. Il y en a qui ne sont pas du tout pour, mais il y en a qui soutiennent ça. Donc, essayez de trouver des bonnes adresses et aller voir pour le portage des monitrices de portage qui donnent des bons conseils et qui soutiennent le portage et qui expliquent pourquoi porter son enfant longtemps et souvent, c'est bénéfique pour l'enfant et pour le parent aussi.
D'accord. Donc, le mot d'ordre, se faire confiance et puis expérimenter.
Se faire confiance, expérimenter et puis se lancer parce que ça vaut vraiment le coup. C'est sûr que c'est un maternage qui demande beaucoup d'énergie. Mais voilà, si le papa est dans l'aventure, il n'y a pas de raison. Et puis même s'il n'est pas dans l'aventure, mettre des livres sur la table. Il y a des super livres faciles à lire maintenant de la collection 1001 bébés et porter bébé, le cododo, pourquoi et comment, le sommeil de son enfant, le partager ou pas. Enfin, il y a vraiment plein de livres qui sont très faciles à trouver et qui peuvent du coup vraiment soutenir le choix des parents dans ce type de maternage-là.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup Marine de votre témoignage.
Eh ben, avec plaisir, Santa, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Nous allons maintenant entendre Claude Didier-Jean Jouveau, auteur de plusieurs ouvrages sur l'allaitement, la naissance et le maternage, qui a bien voulu répondre à quelques questions pour vous aider dans votre réflexion. Bonjour Claude Didier-Jean Jouveau.
Bonjour.
Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'allaitement, la naissance et le maternage et également rédactrice en chef de la revue Allaiter aujourd'hui de la Leche League. Vous avez écrit notamment « Ne pleure plus bébé »,« Portez bébé, avantages et bienfaits », pour une parentalité sans violence et le dernier qui est sorti il y a quelques mois, Allaitement de A à Z, qui est en quelque sorte un dictionnaire amoureux de l'allaitement.
Tout à fait.
Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est que le maternage ?
Pour moi, le maternage, c'est tous les soins qu'une mère donne à son enfant, en règle générale.
Et du coup, quand on parle de maternage proximal ou parfois aussi intensif ?
C'est une sorte de maternage qui recouvre un certain nombre de pratiques qui font qu'il y a une proximité physique entre l'enfant et sa mère. Et on l'oppose justement à un maternage distal où il y a au contraire une distance entre le corps de la mère et le corps de l'enfant. Donc en fait, en général on dit que ça recouvre trois grandes pratiques. Après, il y a plein d'autres petites pratiques annexes, mais c'est un allaitement, en général un allaitement qui va au-delà des premières semaines, voire des premiers mois, du portage et sommeil partagé.
D'accord.
Et donc, dans ces trois pratiques, effectivement, il y a une proximité physique.
Et donc, pourquoi mettre en place ce type de maternage ?
Pour moi, il répond aux besoins du bébé humain à sa naissance. On estime que pour des raisons, la taille du bassin, la grosseur du cerveau des humains, et donc de leur crâne, etc., nos bébés naissent prématurément, si on les compare à beaucoup d'autres mammifères. Et notamment, la taille du cerveau à la naissance chez l'humain est beaucoup plus basse que celle de beaucoup d'autres mammifères qui naissent, je dirais, plus achevés, entre guillemets. Et donc, on peut considérer que on pense facilement les 10-12 premiers mois après la naissance c'est un peu comme une prolongation de la grossesse pour finir un peu tout ce qui n'est pas fini à la naissance à cause de cette naissance prématurée. Beaucoup d'ethnologues parlent justement des nouveau-nés comme des fœtus ex utero. C'est bien ce que ça veut dire. Et donc toutes ces pratiques-là visent justement à finir le bébé dans les meilleures conditions possibles.
D'accord. Et du coup, comment on en est venu à reparler ou à parler de maternage proximal dans nos pays, dans nos contrées ?
Alors, comment ? Je ne saurais pas trop quoi dire. Je peux dire que c'est à partir vraiment du début des années 2000 que ça a commencé vraiment à se répandre, même s'il y avait, il y a toujours eu des sous-cultures, disons, qui pratiquaient ce maternage, et notamment justement des mères qui fréquentaient les réunions de la Leche League, qui ont connu les réunions de la Leche League dès la fin des années 1970. Donc c'est là que j'ai découvert tout ça, moi. Mais c'est vrai que c'était resté très, très minoritaire, très marginal, jusqu'au début des années 2000, où ça a commencé à être beaucoup plus connu, disons, et effectivement répandu. Et je pense que Internet y a été pour beaucoup.
D'accord. Et donc, est-ce que c'est une spécificité des pays occidentaux ou ailleurs dans le monde, c'est pratiqué ?
Ah ben, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ces pratiques qui sont pratiquées justement de façon non réfléchie, non scientifique, mais parce qu'effectivement, ça fait partie de ce qu'on fait dans beaucoup de pays, sans vouloir du tout idéaliser la façon dont les bébés sont traités dans d'autres continents. Bon, il y a un certain nombre de choses, par exemple le portage, qui est quand même beaucoup plus répandu en Afrique, en Asie, qu'il ne l'était en Occident, qui avait complètement perdu cette pratique, alors qu'elle avait existé auparavant.
Oui.
Il y a longtemps. Mais je veux dire, voilà, je ne veux pas non plus dire que parce que c'est fait par les femmes africaines, c'est automatiquement bien. Il y a des choses qui se font en Afrique de façon traditionnelle avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais en tous les cas, voilà, il y a un certain nombre de pratiques qui sont naturelles, disons, chez ces peuples-là qui n'étaient plus du tout naturelles en Occident. Donc il a fallu revenir à ce genre de pratique et, comme souvent chez nous, en l'appuyant sur de la science.
Oui, si des parents ou des mamans sont intéressés pour mettre en place cette pratique, quel conseil vous leur donneriez ?
Éventuellement, effectivement, d'aller voir sur Internet, dans des forums, des groupes Facebook, ça pullule ce genre de choses. Parce que je pense que l'échange et le fait de rencontrer, encore mieux si c'est en vrai, hein, mais bon, virtuellement, ça peut aussi aider, mais de rencontrer d'autres parents, d'échanger sur les pratiques, ça, je pense que ça aide beaucoup pour tout, d'ailleurs.
Oui. Donc, effectivement, il y a, comme vous le rappeliez, un certain engouement pour le maternage proximal. Il y a aussi des éléments de cette pratique qui peuvent être décriés, notamment le cododo, ou même que ça donnerait des mauvaises habitudes à l'enfant et que ça le rendrait dépendant.
Oui.
Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ?
Je veux dire, les personnes qui pensent ça, je pense qu'elles sont absolument persuadées d'avoir raison. C'est difficile de discuter dans ces conditions-là. Je pense pas qu'elles sont convertissables, disons, par la discussion. Après, bon, ponctuellement, une personne après l'autre, je pense par exemple à des grands-parents, hein, ça c'est classique,
oui,
qui voient leurs enfants agir avec leurs petits-enfants de façon très différente de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, et qui peuvent effectivement avoir peur de ça, de la dépendance, de voir des petits-enfants qui seront des enfants tyrans, des enfants rois ou je ne sais quoi. Et souvent, ils s'aperçoivent qu'en grandissant, ces enfants deviennent tout à fait normaux, voire indépendants, autonomes et tout. Donc ça les rassure. Et quand il y a un deuxième petit enfant qui est élevé de la même façon, bon, là, dans ce cas-là, souvent, ils sont moins inquiets.
Tout à fait.
Donc, je pense que c'est vraiment par l'exemple qu'on peut voir qu'effectivement, c'est pas mauvais pour les enfants.
Oui.
Ouais.
Et ce que vous dites là, ça illustre parfaitement le témoignage d'une des mamans, Pauline, qui disait que au départ, sa maman, sa propre mère, était un petit peu interpellée par cette pratique et qu'en voyant le bien-être de son petit-fils,
Elle était convaincue.
Totalement. Il n'y avait plus besoin de. Donc, effectivement. On parle donc de maternage proximal. Est-ce que. Quelle est la place du père dans ça?
Eh bien, comme je dis souvent, le père, à part l'allaitement, mm-hmm. Toutes ces pratiques peuvent être pratiquées par les pères. Le portage, le sommeil partagé, les massages, tout ça, quoi.
Mm-hmm.
Donc. Il y a juste vraiment l'allaitement, stricto sensu, qui, a priori, même si des fois on voit des choses un peu bizarres de père qui pourrait allaiter.
Oui, j'ai entendu ça aussi.
Mais à part ça, effectivement, toutes ces pratiques sont tout à fait accessibles au père.
Donc, si on parle au lieu de maternage proximal, mais de parentage proximal, voilà, on satisfait tout le monde finalement.
Oui, ça me va très bien. Oui.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Claude Didier Jean Jouveau, d'avoir répondu à nos questions.
Eh ben, merci à vous de m'avoir accueilli.
Au revoir.
Au revoir.
Vous retrouverez toute l'actualité et les articles de Claude Didier Jean Jouveau sur son site claude-didierjean-jouveau.fr. Alors Jouveau, J-O-U-V-E-A-U. Comme vient de l'indiquer Claude Didier Jean Jouveau, le bébé humain naît inachevé et très dépendant. Il a besoin d'une figure d'attachement stable et attentive à ses besoins fondamentaux pour se développer en toute sécurité. Même si on entend souvent parler de maternage proximal, les deux parents peuvent trouver leur place car, à part l'allaitement, le papa peut lui aussi le pratiquer. Et on a même entendu dire qu'un certain nombre d'entre eux essayaient d'allaiter, mais ça c'est un autre sujet. Enfin, pour conclure, nous vous proposons une citation du docteur Grantley Dick Reed qui dit « Le nouveau-né a besoin que de trois choses, la chaleur du bras de sa mère, le lait de ses seins et la sécurité de sa présence ». Alors, maternage proximal ou distal, à chaque parent de choisir ce qui est le mieux pour lui et son bébé. Voilà, cette émission est terminée. Un grand merci à Pauline, Marine et Cécile qui ont témoigné, ainsi qu'à Claude Didier Jean Jouveau qui nous a consacré du temps. Merci beaucoup à Julien à la technique. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission pour avoir plus d'informations sur le sujet abordé. Au revoir et à bientôt.
Naître et savoir sur Marmite FM. Ce que vous voudriez savoir avant d'accoucher et de devenir parent.